Philosophie première pour le Père Dominique Philippe, le 7 février 2002 à Saint-Judas.
Il faut comprendre quand on parle de l'activité artistique, du facere, à l'opposition ou à la distinction plus exactement de l'agere, parce que nos activités humaines, la plupart du temps, comportent de l'agere et du facere. Suivre un cours, est-ce que c'est l'agere ou du facere? Un cours de philosophie. Il est bien évident que de suivre un cours, c'est premièrement du côté agere. Il faut être là à l'heure. Il faut être disposé à écouter. Faire le plus d'attention possible. Tout ça est intérieur. C'est l'intention, la recherche de la vérité. Quand on suit un cours d'une façon intelligente, on le fait dans ce désir ardent de vaincre les erreurs qui sont en nous, de rechercher une vérité qui soit de plus en plus précise. Donc, il y a une activité morale de recherche de la vérité qui est intense. Et puis, il y a une manière de mettre notre intelligence éveillée, de voir comment cette recherche peut se faire. Elle implique prendre des notes, par exemple. Prendre des notes, c'est du facere. On fait quelque chose. Et quelquefois, on le fait tellement mal qu'on n'arrive jamais à relire ses notes. Donc, c'est le facere qui manque. Il y a une manière de prendre des notes, qu'on peut les relire. Et une manière de prendre des notes, c'est illisible. Même pour celui qui les a pris. Hein, pour les autres, encore beaucoup plus. Et c'est un manque de facture. On est artiste jusque dans la manière de prendre des notes. Vous voyez ? Donc, il y a un lien constant des deux. Il ne faut pas l'oublier, un lien constant entre notre prudence et notre facere, notre manière artistique de vivre. Votre manière artistique de vivre va jusque dans votre manière de vous asseoir et de prendre des notes. Quand je regarde, les sœurs, je vois moins bien. Se mettre exprès un peu plus loin, comme ça. On ne les voit pas. La manière de prendre des notes est très significative. C'est du facturer. C'est pas agir. C'est pas de l'agir au point de vue moral. Le facturer, c'est une incarnation de notre volonté, de nos intentions à travers notre corps. Notre corps, il nous est remis et nous pouvons je ne dis pas mais nous pouvons l'assouplir. Au contraire, accepter sa rigidité. Nous pouvons apprendre à vivre. Il y a une manière de vivre qui s'exprime à l'extérieur. Quand on dit que toute notre vie doit être une liturgie, et les moines orthodoxes insistent beaucoup sur cela. Toute la vie est une liturgie. Donc, elle est un art pour Dieu. La liturgie, c'est l'art pour Dieu. Alors, vous avez trois grandes pistes de l'art. L'art sur votre corps, l'art sur le milieu dont vous vivez, l'art à l'égard de Dieu. Et c'est très, très net, votre facturé à ces trois dimensions. Une dimension très voisine de la morale vis-à-vis de votre corps. Vous avez des mœurs de culture, de civilisation. Et de repos et de détente et en même temps de dressage. Il y a des gens qui ont une mollesse vis-à-vis de leur corps qui est remarquable. Oui. Alors on voit très bien, ça fait penser, vous savez, il y a des fromages qui... Il déborde toujours. Alors, on a l'impression que une mollesse, c'est un manque de fatuité, cette mollesse. Elle peut être enracinée dans un manque d'intention, mais au fond, c'est une mollesse. Il y a un style de vie pour un moine. Il y a un style de vie pour une moniale. Qui n'est pas le style de vie ordinaire et qui n'est pas le style de vie de l'enfant. On est l'enfant de Dieu, mais on est un citoyen du ciel. Et c'est un chives, chelorum, un citoyen du ciel. Il y a une manière de vivre. Et disons pas que c'est du formalisme, c'est de l'art. C'est pas la même chose, hein. Le formalisme, c'est le moule. Vous voyez bien, vous avez un moule, c'est ça, ils sont tous comme ça. Alors ça, c'est du formalisme. Tandis que le style de vie, ça fait que votre corps est habité par votre âme. Et votre corps étant habité par votre âme, a un style de vie. Chacun a son style de vie. Il y a le style de vie monastique. Il y a le style de vie d'être consacré à Dieu. Il y a le style de vie du père de famille, de la mère de famille. Le style de vie de celui qui est encore très fort dans le devenir. Le novice qui apprend, qui doit apprendre ce style de vie. Et c'est de l'art. C'est pas autre chose, c'est de l'art. Votre corps est votre première matière qui vous est confiée. Et c'est vrai. Il faut avoir un corps de saint. S-O-I-N-T. Et ça se voit. Cet artiste qui disait, à 35 ans, on a le corps, la figure de son âme. C'est pas entièrement vrai, puisqu'il y a l'atavisme. Alors, votre grand-père, il revit en vous. Or, votre grand-père était noceur et vous êtes moine. Alors, il y a la lutte entre le vieux noceur du grand-père, qui est là présent, et puis la vie du moine. Et c'est vrai. Et il y a une lutte constante pour faire que notre corps soit le corps d'un saint. Le fatuéré et le moral est très lié. Il y a le corps à l'égard du milieu ambiant. On construit une petite hutte pour lutter contre la chaleur, pour lutter contre le froid. C'est différent, la hutte dans le pôle nord et à l'équateur. Donc, tout un équilibre de vie et un art artisanal qu'on invente, qu'on perfectionne et qui est très dépendant du milieu dans lequel on est, de la matière qu'on peut avoir. La matière est à notre disposition quand on vit tout près des forêts et dans les forêts. C'est pas la même chose que quand on vit justement au bord de la mer. C'est extrêmement curieux de voir le point de vue artisanal se développer. Et le point de vue artisanal, c'est vraiment l'art à l'égard du milieu, rendre son milieu habitable. Et ça se fait toujours quand on change de maison. Les premières fois qu'on est venu ici, je me souviens les réflexions, je ne dis pas de qui, mais vous devinerez peut-être les réflexions. Oh, mon père, jamais nous irons là. C'était la réflexion immédiate de la visite première à Saint-Jodard. Jamais nous irons là. Et Dieu vous a pris cela au mot. Tu habiteras là. Et quand on voit ce que c'était la première année ici et ce que c'est maintenant, alors j'expliquais ça au cardinal d'Anvers. Alors il me disait, quand on change de lieu, il faut qu'il y ait une chose belle. Et c'est vrai, parce qu'il y a une chose belle qui lutte contre ce qui est encore informe, ce qui a la forme du précédent. Et quand le précédent n'était pas précisément très cultivé, il y a beaucoup à changer, il y a beaucoup à transformer. Mais il y a tout le point de vue art. Du point de vue, la maison, je me souviens, c'était à Fribourg. On habite une nouvelle maison, c'était des amis qu'on connaissait bien avec le père de Ménas. Alors, ils nous avaient invités pour venir auprès d'eux. On est entré, le repas n'était pas terminé, donc on était au salon. Et le salon était comme il aurait été il y a 30 ans. C'est très conservateur, le salon. Les chaises étaient bien posées, tout ça. Alors, le père de Ménas est entré dans ce salon, on s'est dit... s'asseoir là. Là, dis donc, on va pas s'asseoir là sur les chaises. Le père de Ménas avait quelquefois des idées, pas baroques, mais des idées. Il dit, on va s'asseoir par terre. Et on a laissé les chaises, puisqu'elles étaient vulnérables, elles n'avaient pas bougé. Elle n'avait pas bougé depuis 30 ans. Ça donne une manière de vivre. Hein. Les chaises qui, depuis 30 ans, sont les mêmes. Même fauteuil, exactement. Tout. Même situation, tout. Il y a un cadre de vie. C'est un cadre de vie. L'artisan, il vous fait vivre un cadre de vie. Alors, on n'avait pas envie du tout de se mouler. Vous voyez, se mouler à ce cadre de vie immuable depuis 30 ans. Alors on s'est assis par terre. Et quand ils sont venus, quand ils sont arrivés, en nous voyant par terre, ils se sont demandé si on perdait la tête. Puis au bout d'un certain temps, ils ont compris. Mais changer, il ne faut pas changer pour changer. Mais de temps en temps, on voit, on reprend conscience de ce que c'est qu'un cadre de vie. Il y a des animaux qui ont le cadre de vie sur eux, la tortue. Cet animal invraisemblable. La tortue. Il y a des gens qui sont tortues. Ils ont le cadre de vie au-dessus d'eux, puis ça ne change pas. 30 ans, 300, ça peut durer indéfiniment. Puis c'est dur, la tortue. C'est très dur. Quand on voit la petite tête qui sort. Et au fond, notre cadre de vie, il n'est pas naturel. Il est artificiel. Nous le faisons. Ne portons pas ça sur nous. Ne portons pas. Quand le cours est terminé, vous n'allez pas prendre votre chaise et partir avec pour reprendre. Non. Un cadre de vie qui est autre que nous et qui complète notre corps, qui achève notre corps. Qui prolonge notre corps. C'est parce qu'on a un corps qu'il y a ça. Les anges n'ont pas de cadre de vie. C'est propre à l'homme. Il fait sa vie, son cadre de vie. Et c'était extrêmement intéressant de voir que, au fond, un petit village a sa forme particulière. Quand on visite un pays nouveau, on est attentif à ça. Très attentif, tu vois, le cadre de vie. Le point de vue artisanal. Le véritable artisan, c'est celui qui porte sa maison avec lui. Et qui porte cette maison qui peut être changée. Et qui chaque fois peut être plus parfaite. Pour permettre au corps de pouvoir vraiment être chez lui. Quand vous entrez dans un cadre de vie tout à fait différent que le vôtre, votre corps n'est pas à l'aise. Vos chaises ne sont pas à l'aise. Le point de vue artisanal, c'est tout ce qui permet à l'homme d'avoir une maison ambulante, c'est la tortue qui fait sa maison. C'est l'homme qui fait sa maison. Et c'est vrai. Comme on voit la tête de la tortue qui sort de la carcasse, quand vous entrez dans un village, surtout quand vous le faites de bonne heure, tout paraît mort. Puis, on voit la tête d'une vieille personne qui ouvre sa fenêtre, la tête de la tortue, vous voyez, qui sort de la maison. Et elle a pris cette carte. La maison, et c'est sa maison. Et on ne déloge pas un vieillard, une vieille personne, parce que ça fait trop corps avec elle. Là, après, se développe et on a ce qu'on appelle et ce qu'on a appelé les beaux-arts, c'est-à-dire un art qui n'est plus directement le milieu de vie, mais qui est où l'habitat. Alors là, c'est le milieu de vie encore. Et ça, c'est l'architecture. Et l'architecture est à la fois le milieu de vie artisanal. L'architecture ne doit pas quitter l'artisan. Et puis, en même temps, un milieu de vie capable de recevoir les autres, capable de se développer, devenir universel. Et les beaux-arts, c'est l'artisan universel qui fait quelque chose qui est plus que utile, qui est agréable, qui est beau. On crée un milieu qui soit beau, qui soit agréable à vivre, pas de l'ordre utile, agréable à vivre. L'homme a besoin d'avoir un milieu agréable à vivre. Ça lui permet de développer quelque chose de gratuit. Ce n'est plus de l'ordre utile. Il faut habituer aux gens à vivre de la gratuité. Or, on éduque quelqu'un à vivre de la gratuité par la beauté. C'est la beauté qui est la possibilité de sortir de l'utile. C'est très important. Quelque chose qui est agréable. Quelque chose qui est beau. Quelque chose qui transcende. Le premier dépassement de l'humain comme humain, c'est l'art. C'est le premier dépassement. Réaliser un portrait beau, c'est le dépassement. Autour de vous, vous n'avez que des figures plus ou moins bien. Mais vous avez un beau tableau beau qui dépasse, qui transcende. C'est très important de voir ça. Alors, ça fait partie non plus directement de la personne comme individu de la famille, mais ça fait partie de la personne qui dépasse son milieu. Et ça, c'est très net. Quand vous êtes reçu chez quelqu'un qui a de très beaux tableaux, de très belles statues, il y a un dépassement. Quelque chose qui est agréable à voir. C'est inutile. Une civilisation qui ne fait plus que de l'utile est une civilisation qui perd le sens de la transcendance. l'art est le premier moment de la transcendance. Ça, c'est très net. C'est le premier moment du dépassement. Et quelque chose qui n'est pas utile, c'est énorme de vivre avec quelque chose qui n'est pas utile, qui est de l'ordre de la beauté. On est très habitué, parce que dans un pays cultivé, on est très habitué de ça, mais c'est très important. Comme dans un couvent, c'est très important d'avoir quelque chose qui transcende. On n'aurait qu'une statue, on n'aurait qu'un tableau, mais c'est utile à l'égard de la transcendance. Donc c'est quelque chose qui n'est pas utile. L'art n'est pas utile, mais il est indispensable pour la transcendance. Quand une civilisation commence un tout petit peu à n'avoir plus la même vigueur d'invention, on invente les musées. Malraux a très bien saisi ce que c'est que le musée. Et notre civilisation a des musées. C'est curieux. On rassemble dedans des quantités de choses importantes qu'il ne faut pas perdre. Alors on a le musée. Vous voyez, le musée, c'est une civilisation qui commence à être fatiguée. Alors qui a besoin de se reposer au musée. Quand on voit les vies de musée par les gosses. Hein. Ça fait partie de la culture, on fait visiter les musées. Et c'est très curieux de voir. On rassemble les animaux bien faits pour qu'on puisse voir un type d'animal parfait. Et le musée, on rassemble des œuvres d'art qui ne sont pas faites pour un musée. Faire une œuvre d'art pour un musée, c'est curieux. C'est l'État qui doit avoir le sens suffisant de choisir les choses qui vous donnent le sens de la transcendance. Un art qui ne vous donne plus le sens de la transcendance, qui au contraire, vous avilit, est le signe d'une civilisation qui n'a plus de vie, qui baisse. Et ces expositions, par exemple, qu'on a faites à un moment, et je crois qu'elles continuent, je sais pas, de musées invraisemblables, où l'on présentait des corps humains, morts évidemment, mais gardés, et on faisait visiter ça. Ce qui était normalement le lieu pour guérir les gens. Vous voyez, les cadavres humains, c'est un signe d'une civilisation de mort. Et ces expositions attiraient des quantités de personnes. C'était le grand chic. Alors là, vous voyez, quand je dis bien le grand chic, parce que bon, je crois que c'est le signe, au fond, d'une décadence qui devrait être, si on gouverne bien, tout ce qui est signe de décadence doit être supprimé. Parce que la décadence collective est terrible. La décadence collective peut descendre très bas. La décadence individuelle, c'est déjà terrible. On ne doit pas souffrir la décadence. Et l'art crée un climat. Alors il faut bien dire que on peut très bien créer un climat de décadence. Et dans la question des musées, qui fait partie de l'art, est quelque chose de nouveau, d'une civilisation où le conservare est plus fort que l'invention. Quand on est en pleine période d'invention, on n'en a pas besoin. Mais quand on commence à s'arrêter, on a besoin de se dire, on n'est pas bête, regardons ce que les grands-pères ont fait. On a fait ça. C'est l'humanité qui s'arrête et qui se glorifie elle-même. Or, dans l'art, il peut y avoir ça. Alors, à ce moment-là, l'humanité qui se glorifie elle-même, c'est un signe qu'elle n'a plus de vitalité suffisamment forte pour dépasser. Vous voyez, il y a donc ces deux aspects du facere. Le facere, ces trois aspects, à l'égard de notre corps, à l'égard de la communauté, à l'égard des beaux-arts. Et il y a trois périodes d'épanouissement et la décadence. La décadence à l'égard du corps, la décadence à l'égard de la famille, de la communauté, de l'habitat. La décadence à l'égard de l'art, de la transcendance de l'art. Il y a en plus, et on doit le noter, le point de vue économique qui s'installe et qui veut s'emparer de l'art à l'égard de l'habitat, à l'égard du corps, à l'égard d'un art transcendant. On a la technique. La technique pour elle-même, voulue pour elle-même, la technique dans la nourriture. La nourriture, hein, avoir une bonne cuisine, c'est un art. C'est l'art à l'égard du corps. À l'égard du corps, il n'y a pas que l'habitat, il n'y a pas que le vêtement, il y a l'art de la cuisine. Et c'est d'abord pour soi, puisque la vie végétative, elle est première pour nous, elle est très individuelle, c'est l'individu. C'est pas la personne, c'est l'individu, mais la personne assume l'individu. Alors, le premier art, c'était ça, c'est soigner son corps, le sport, soigner son corps par l'aliment. C'est par rapport au corps. Et alors, la technique s'empare même de la cuisine. Il n'y a plus d'art culinaire. On a des conserves. Vite, vite. Alors, on prend des conserves. Pas besoin de l'art culinaire, de l'art par rapport à la nourriture. Ça disparaît. La technique s'empare de tout. et la technique ne forment pas une culture. Vous voyez, c'est le grand danger, ça. C'est le grand danger de la baisse générale du facere. C'est l'ennemi mortel contre le facere. On supprime l'art culinaire, on supprime le point de vue de l'art du vêtement, on supprime tout ça, on supprime le point de vue de l'habitat. La technique fait que partout c'est la même maison, que partout c'est le même parapluie, que partout c'est le même fauteuil. La technique, ça commande. Et ça vieillit très vite. Hein. Alors ça doit changer. Les modes changent très vite. Les modes au point de vue vêtement, au point de vue habitat, ouais, ce sont des modes. Ce n'est plus des recherches artistiques, artisanales. La technique est l'ennemi mortel du facere. Et c'est le point de vue mathématique, économique, ça coûte moins cher. C'est le raisonnement, hein. Ça coûte beaucoup moins cher. Tout le monde peut l'avoir, il y a un avantage, c'est que ça peut s'universaliser. Tandis que les objets qui étaient faits par un art ne se généralisent pas. Donc c'est l'universel qui prime. Il faut que tout le monde puisse vivre comme ça. On impose le type normal de vie dans tous les domaines, jusque dans l'aliment. C'est la médecine. Se généralise, elle devient technique. Le médecin est fait uniquement pour donner des pilules. Tout, l'aspect technique, réfléchissez sur l'aspect technique. Qu'est-ce que c'est que l'aspect technique? C'est l'utile qui s'empare de la personne et qui fait que la personne ne devient plus qu'un numéro de la communauté. C'est le primat de la communauté sur l'individu et la personne. Et ce primat en raison d'une économie qui commande tout. Que ce soit moins cher, il faut le multiplier. Et pour que ce soit moins cher, il faut la propagande. Et la propagande joue un rôle énorme pour que, justement, l'homme puisse vivre d'une vie commune. Alors, il y a du bon en ce sens qu'il y a de moins en moins, du moins on le dit, de moins en moins de gens qui meurent n'ayant pas de quoi vivre. Ça se peut. La technique qui s'empare d'un jeune pays, prenez pour l'Afrique, en Europe, on lutte. Parce qu'il y a quand même encore des traditions familiales qui demeurent. La tradition familiale, elle est du côté du facere. Distinguer le point de vue de l'art culinaire, de l'art vestimentaire, de l'art artisanal, on distingue ça, on garde ça. La tradition. Mais très vite, c'est complètement dévoré par le point de vue utilitaire, économique, qui fait que tout doit être fait en série. Ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est vrai, ça coûte beaucoup moins cher. Et donc ça permet à beaucoup plus de gens de s'en servir. Mais en même temps, ça diminue la possibilité d'émerger de la transcendance. Si c'est le point de vue terrible à l'égard de la transcendance, donc de l'art proprement dit. L'art proprement dit tend à disparaître à cause de la technique liée à l'économie qui s'impose à tout le monde. Vous voyez, je crois que nous vivons ça et nous devons y réfléchir. C'est à l'égard donc du facere. C'est pour ça que c'est si important. C'est à l'égard du facere qu'on doit essayer de comprendre ce qui se vit maintenant. On ne peut pas lutter contre cela. C'est quelque chose de trop puissant. Mais on peut le dépasser. On ne peut pas lutter contre l'économie, contre le point de vue de vouloir communiquer le plus de choses possible, le moins cher possible. Mais on peut s'en servir humainement. C'est-à-dire avoir le sens exact de la place du facere dans notre vie humaine. Pendant des années et des années, la scolastique était l'enseignement classique. Or, en scolastique, il n'y a rien sur le facere. Ça n'existe pas. Quand je suis arrivé à Fribourg, il n'y avait pas de cours sur le point de vue du facere. On considérait que ça allait de soi. Le facere artisanal, le facere art, le facere liturgie. Complètement. Parce que la scolastique n'en parlait pas. Alors, c'est développer un facere en dehors. Marx a compris l'importance du facere. Et à ce point de vue-là, il a réveillé le monde chrétien. Que le facere devait être humain. Il a joué un rôle très important à ce point de vue-là. C'est que on devait répondre à Marx. Il n'y a pas que lui. Il y avait aussi d'autres philosophes qui exaltaient le facere. Nietzsche a exalté le facere. De façon tout à fait différente de Marx, puisque c'était les deux dimensions du facere. Le facere au point de vue travail humain, au point de vue économique, et le facere, l'exaltation de l'homme. Ça a obligé les chrétiens de comprendre que l'homme, la dimension personnelle de l'homme ne pouvait pas ne pas regarder le facere. Que le travail était une dimension humaine. Regardez la Bible, dès le point de départ. L'homme doit travailler. C'est la différence avec l'ange. L'ange ne travaille pas. Et beaucoup de chrétiens considéraient le travail, c'était pour les esclaves. Et l'homme, le chrétien honnête, bon bourgeois, était au-dessus. Il y a eu un mépris du travail, un mépris du facere artisanal qui s'est universalisé avec l'usine. Alors un mépris du travailleur qui était considéré comme un esclave. Un mépris du travail des beaux-arts. On en avait peur. L'Église, pendant un moment, très nettement, à Rome, il y avait les mécènes qu'on gardait, mais les autres, c'était très curieux la position de l'Église par rapport à l'art. Ce n'est guère que depuis un certain temps, et il n'y a pas longtemps, on comprend que le facere est nécessaire à la dimension de la personne humaine. Et que le facere est vraiment quelque chose qui est indispensable pour l'homme. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut choisir ou ne pas choisir. Un homme qui n'a aucun sens du facere, il lui manque quelque chose comme homme, comme personne humaine. Dieu demande à l'homme de compléter la création. Et par le facere, l'homme coopère avec Dieu qui gouverne le monde. Puisque le facere touche les causes secondes, il est laissé à l'homme le pouvoir de modifier ce facere, de le modifier à droite ou à gauche, de le modifier dans un sens bon, noble, grand. Un travailleur, un vrai travailleur, il développe sa personne. C'est l'homme par rapport au monde créé par Dieu. Et Dieu n'a pas voulu créer un monde parfait. Il a voulu que l'homme y travaille et le modifie avec lui. Donc, le facere devient pour le chrétien comme une manière de coopérer. Dieu ne travaille pas, mais à la conduite de Dieu sur l'univers. Ne disons pas, parce que ce serait faux, que le facere est un complément de la création. Ça se dit couramment, ça. C'est pas juste. Le facere joue au niveau du gouvernement de Dieu. Et le gouvernement à l'égard des causes secondes. Quand je travaille, je suis cause seconde. Quand je travaille, je modifie le devenir, pas l'être. Je modifie le devenir. C'est ma seule manière de pouvoir permettre à l'être de se développer parfaitement. C'est-à-dire, c'est la seule manière pour moi de permettre à la réalité humaine d'atteindre sa finalité. Je transforme le milieu dans lequel je suis. Le milieu vital. Tout simple. Celui de la cuisine. Celui aussi des soins du corps. Je transforme ce milieu. Je le rends plus vrai. Je permets à l'homme de se développer d'une manière plus saine. Les soins du corps, la nourriture du corps, tout ce qui est fait partie de ce milieu de vie. Et permet à l'homme de pouvoir développer au point de vue humain jusque dans sa transcendance d'être un contemplatif. Le travail est vraiment un point de vue essentiel à l'homme et lui permet de dominer l'univers. La parole de Dieu est très nette là-dessus. Elle est dominée, gouverner le monde. Donc, il y a dans la dimension du facere, vu d'une façon saine et vraie, il y a le fait que l'homme est un être spirituel, mais lié au corps. C'est la dimension du corps qui donne le sens dernier au facere. C'est parce que le corps humain est dans un devenir parfait. Rien ne connaît plus le devenir que le corps humain. C'est parce que le corps humain est plongé dans ce devenir qui exige un milieu de vie que le facere est essentiel à l'homme. Et que ne pas regarder ce facere en disant tout ça, c'est le corps, je suis un être spirituel, ce n'est pas humain. Puisque l'homme est âme et corps. Et ce n'est pas chrétien. Puisque tout ce qui est humain est assumé par le point de vue chrétien. Et donc, il y a une vision chrétienne du facere qui est absolument nécessaire, qui fait partie à la personne humaine. Je crois que c'est à l'égard de ce facere que, de fait, il y a eu les plus graves erreurs et qui se continuent. Et on est très facilement platonicien en disant le corps, la matière, ça, c'est secondaire, mais ça peut être secondaire essentiel, tandis qu'on a considéré que c'était secondaire accidentel. Et c'est ça l'erreur.